Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 31ème épisode de Torréfaction, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'actu, notre sélection d'actu. Salut Caf.
Ouais, salut Fasquilla.
Ouais, c'est un petit salut ça.
Non, ça va, on va tout donner pendant une demi-heure et après je vous promets.
Une demi-heure ou moins, l'actu est un peu calme en ce moment et puis comme nous on fait pas des tops et des classements de fin d'année et compagnie, bah forcément...
Ah,
on
est, tu dirais du mal des de gens?
Non,
pas dans mon habitude.
Attends, mais non, on fait jamais ça ici.
En revanche, nous ce qu'on fait, c'est vous parler beaucoup de PUBG. On va commencer par ça d'ailleurs, puisque ça y est, la version 1.0 est sortie.
Attends, je crois qu'il y a des mecs qui étaient un peu en panique, on en a pas trop parlé les deux dernières fois.
Ils se demandent ce qui se passait.
Voilà, il est sorti le 20, donc ça y est, c'est officiel, la chose est en version 1.0. Alors si vous avez joué sur les serveurs de test, je vous le dis tout de suite, hein, ça ne change pas grand chose. C'est-à-dire que ça plante toujours un peu.
Ah ouais, ils ont intégré tous les nouveaux mouvements et tout ça du coup.
Ah oui, c'était déjà le cas sur les serveurs de test. Donc en fait finalement on a swappé toute cette belle production du serveur de test sur la version release. Donc si vous avez saigné la version test, ça ne va pas vous changer votre vie. En revanche, ça a été un peu compliqué. Hein. Les serveurs ont un peu toussé au démarrage. On va pas se mentir, ils ont eu un petit peu de retard. Je pense qu'on va encore avoir des dératés pendant un petit moment. Voilà, c'est pas parce qu'on y joue depuis le mois de mars que tout se passe bien d'un coup de baguette magique. Hein, les bugs qui étaient présents sont toujours là.
Cela dit, ça a quand même bien progressé depuis première version.
Par rapport à la version du mois de mars, les enfants, ça n'a plus rien à voir. On a des vrais bruits de buggy, une nouvelle map, on a plein de nouvelles armes rigolotes, parfois qui servent à rien mais qui sont rigolotes quand même.
Elle est dans la 1.0, les nouvelles maps du coup, j'ai pas regardé encore.
Ouais. Faut que tu viennes, qu'est-ce que tu fais? Viens mourir dans le désert avec nous. En plus maintenant tu peux crever en traversant la route tellement il y a des fenêtres de chaque côté des villes et tout, c'est compliqué. Mais non, franchement le feeling est complètement différent et du coup ça fait deux maps hyper intéressantes. La troisième a pas encore vraiment été dévoilée mais on sait que c'est en travaux. Il se passe vraiment plein de choses et là franchement ils le disent dans le patch note hein, ça c'est le début du début finalement. Maintenant ça continue sur sa lancée, les serveurs test vont continuer d'évoluer de leur côté pour tester les prochaines évolutions du jeu, et puis bon ça va cartonner, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Voilà, 25 millions de mecs sont en train d'y jouer, ils sont en train de péter tous les records comme d'habitude. La version Xbox fait un massacre en early access aussi.
C'est vrai.
Je crois, si je dis pas de bêtises, j'ai vu passer un chiffre comme quoi ils en avaient fourgué plus d'un million. Et que potentiellement c'est un jeu qui va faire vendre de la Xbox One X. Ce qui est c'était le but de Microsoft, hein, mais je pense que même dans leurs rêves ils y pensaient pas. Et a priori, écoute, il se passe des bonnes choses aussi de ce côté-là. Donc pour Bluehole, c'est un peu le carton total. Je pense que si je suis pas complètement explosé après ce podcast, je risque potentiellement d'y passer une partie de ma nuit parce que j'ai allumé mon PC ce matin et je n'ai pas eu le temps de m'y pencher. Je suis très triste.
Il y a un nouvel item à looter aussi d'ailleurs pour cette version 1.0.
Oui, alors ça c'est dès que vous allez vous connecter pendant plusieurs semaines, vous récupérez un petit t-shirt Chicken Dinner histoire de fêter ça. Bon voilà, c'est un petit goodie virtuel qui leur coûte pas bien cher à mettre dans le jeu et qui marque le coup pour les gens qui étaient là à la release de la version 1.0.
Nice. On va passer tout à fait à autre chose avec l'espace et Elite.
Ouais. Alors ça fait longtemps que j'ai pas trop dépoussiéré mes vaisseaux. Je sais qu'il y a des gens qui y jouent encore tout à fait régulièrement, tout le temps. Et en fait, c'était juste pour vous signaler qu'un nouveau vaisseau vient de sortir. C'est le Type 10. Alors si je dis pas de bêtises, c'est le premier vaisseau de l'Alliance. Tu sais que t'as l'Alliance, l'Empire, la Fédération. Chacun avec leur partis politiques, leurs intrigues, surtout par écrit, hein, parce que dans le jeu, on voit pas grand-chose. Et du coup, ce nouveau vaisseau, il était assez attendu parce que c'est une grosse bétaillère et avec possibilité de mettre plein de canons et de faire plein de trucs avec. Donc, qui vient se placer, pour ceux qui connaissent, entre l'Anaconda, le Cutter, etc. Et il a un look assez sympa, tu vois, un peu truc le gros vaisseau dans Alien, tu vois, le premier.
D'accord.
C'est un truc un peu Indus qui a un design de hublot un peu agressif. Hein. Enfin, franchement, je le trouve assez réussi, à part un truc qui me fait crever de rire. Ils lui ont collé un spoiler.
C'est pour l'aérodynamisme, mec.
Putain de spoiler dans l'espace, quoi. Je pense que c'est la faute de goût la plus énorme que j'ai vue sur un vaisseau de Elite. Alors, je suis certain qu'il y a des, parce que les mecs sont forts. Attention, il y a une justification. Ouais. Il y a une justification quelque part, certainement. Je n'ai pas été chercher. J'ai juste vu les photos, les vidéos. J'ai fait genre, les gars, seriously. Voilà. Donc, bah, faites-vous plaisir. Il est pas très cher, mais alors équipé complètement, ça va vous coûter, oh, allez, un petit setup dans les 600 millions, hein. Donc, si vous commencez le jeu, pour Noël, on en reparle l'année prochaine.
C'est ça. Et pendant ce temps-là, chez Chris Roberts, on recrute Mark Hamill pour essayer de faire croire aux gens qu'il se passe des trucs. Et tu voulais justement parler Star Citizen.
Ah, mais écoute, on reste dans l'espace. et dans l'espace, dans tous les sens du terme. Donc, Star Citizen, non, il se passe pas grand-chose, à part qu'ils ont annoncé Squadron 42.
C'est ça.
Qui est donc réellement maintenant un jeu à part que tu peux payer, tu peux faire un pledge dessus, en fait. Pour les aider à le développer, parce que tu comprends.
Les mecs ont vraiment aucune race.
Bah non, bah 170 millions pour faire deux jeux, tu sais, c'est un peu short, quoi.
Donc, bon, en fait, non. On va pas finir le premier, mais on va en lancer un deuxième. Si vous pouviez repasser à la caisse, ça serait vraiment cool, parce que Mark Hamill, il est pas gratuit, en fait.
Non, mais le foutage de gueule est donc total. Et ce qui est très drôle, c'est que l'argent de tous ces pledges va aussi servir à payer le procès qui est en train de se dessiner avec Crytek. Crytek, donc c'est la boîte qui est un peu en train de crever de faim, mais qui est la boîte qui avait fait le CryEngine, qui est utilisé par Star Citizen à la base, et qui a switché récemment sur Lumberyard, qui est un moteur fait par Amazon.
Mais on avait parlé sur Geekzone, ouais.
Voilà, Amazon Games, mais qui est également basé sur le CryEngine. Donc la petite blague, pourquoi ce procès, c'est parce que déjà, première chose, ils ont la licence pour faire un jeu vidéo, les petits gars de chez CIG, pas deux. Et maintenant que Star Citizen et Squadron 42 sont officiellement deux jeux séparés, eh bien, apparaît ici la bonne soupe. Et là, ils ont bien raison, Crytek, d'aller les éclater. Et la deuxième chose, c'est qu'avec le switch de moteur qui s'est fait à l'arrache, il y a deux problèmes. Le premier, c'est que, a priori, vu les dernières vidéos de où ils expliquent un peu comment ils font le jeu et tout ça chez CIG pour t'expliquer pourquoi il sort pas. En fait, tu vois des bouts de code, des moteurs qui tournent derrière, etc. Enfin, bref, les mecs se sont rendu compte que c'était pas du tout Lumberyard qui était toujours utilisé. Ils utilisaient toujours, en fait, le moteur de Crytek.
Ah, merde.
Donc déjà, bah,
ça la fout mal.
Ça la fout mal et puis ça un peu ça conforte Crytek dans son histoire de disant les gars elle est où ma thune et le dernier truc c'est que dans le contrat c'est très clairement expliqué que les logos doivent apparaître mis en avant pour la boîte etc même s'ils changent de moteur puisque le contrat en fait était quand même relativement solide et évidemment ça n'a pas été fait c'est-à-dire que maintenant tous les logos Crytek etc ont viré des vidéos par exemple et du site web et les mecs ont fait genre mais attends c'est rigolo parce que c'est pas du tout ce qui est écrit sur le papier là donc c'est la merde et ils ont pris un énorme cabinet d'avocats qui a gagné plein de trucs entre autres ceux qui ont fait gagner les petits cas de Bethesda contre Facebook enfin contre Oculus donc je pense qu'il va se passer 2-3 trucs et on n'a pas fini de rigoler donc après je vous le dis hein, parce qu'il y a plein de gens qui défendent Star Citizen en disant bah oui mais s'ils ont changé de moteur et tout mais on s'en fout les mecs c'est, le contrat est un contrat point barre donc ça va être un peu rigolo à suivre mais pour l'instant j'ai envie de te dire que si on met ça de côté ça veut pas dire que de toute façon on aura un jeu donc autant en profiter de Santa Barbara, quoi.
Ou de retourner chercher son type 10 dans Elite.
Exactement.
Bon, on va passer du côté des apps et en vitesse parce que j'en ai parlé cette semaine sur Geekzone, mais je voulais juste re-signaler donc une découverte pour moi de deux apps que je connaissais pas du tout. Une pour faire du montage vidéo qui s'appelle Shotcut. C'est une app complètement gratos, open source, donc ça plaira à nos amis barbus, qui pour le coup, comme je disais dans le papier sur GZ, n'a rien à envier au pro, qui est vraiment super complet en termes de format géré, de périphériques gérés, ça passe par le 4K, c'est tout est intégré en fait via FFmpeg dans le soft, donc qui permet justement de se débarrasser des codecs de l'OS et d'avoir ses propres codecs intégrés. Et comme c'est multiplateforme, ça tombe sur PC, macOS et Linux, et ben on peut transférer ses projets d'une machine à l'autre très simplement. Allez jeter un petit coup d'œil au soft, comme il est gratos de toute façon, ça vous coûtera pas grand chose d'essayer. Si ça se trouve, vous allez trouver votre bonheur et ça vous permettra peut-être enfin de vous débarrasser de cette immense bouse qui est Vegas et que je vois tout le monde recommander partout. Arrêtez avec Vegas, ça suffit. suffit.
De toute façon, vous avez rien compris. Ce qu'il vous faut, c'est iMovie.
Voilà, il faut un Mac. Voilà. Merci, Caf. Et je voulais parler d'une autre app. Pour le coup, c'est un éditeur de son. Là, on est plutôt dans un truc qui va aller concurrencer Audacity pour ceux qui utilisent Audacity. Alors là, c'est pas un soft gratos en revanche, mais je dirais que c'est mérité qu'il soit payant parce que pour le coup, il est largement plus polyvalent qu'un Audacity et puis surtout plus facile à utiliser, je trouve. Enfin, ça, c'est un avis personnel. C'est un éditeur de son multipiste, donc c'est vraiment uniquement concentré sur le son. C'est pas un DAW, un Digital Audio Workstation dans le sens où on peut pas mettre de MIDI, de son, d'instruments, etc. On peut juste utiliser des WAV, des fichiers audio. Donc c'est plutôt un truc qu'on va utiliser pour faire du multipiste quand on veut monter son groupe en studio ou bien par exemple faire du reportage, monter des podcasts. Et c'est un soft qui est vraiment vraiment très complet, qui pour le coup fait oublier les autres du marché. Même Audacity qui a beau être gratuit, ça suffit pas. Le soft coûte $59 en ce moment, c'est pour ça que j'en parlais, parce que la version 64 bits vient de sortir. Donc bah voilà, si vous cherchez un soft audio, allez jeter un petit coup d'œil à la version 1.4 de Sundub. Il y a une version d'essai limitée à 30 jours qui est complètement fonctionnelle, donc il vous laissera largement le temps de tester le bidule. Et puis toi, tu voulais nous reparler d'Apple, hein, qui pousse un coup de gueule.
Alors en fait, c'est tout chaud, ça vient de sortir. Ils sont en train de changer leurs conditions d'utilisation sur les différents App Store pour forcer les petits rigolos qui sortent des jeux et puis parfois peut-être même des applications qui ne sont pas des jeux, parce que je crois que rien n'arrête personne dans ce monde de fou. Rapport au lootbox. Donc maintenant, il va falloir indiquer les pourcentages de chances de gagner tel ou tel objet sur les lootbox qui sont mis en vente.
D'accord.
Histoire que les gens soient conscients que votre super cap de super-héros bidule machin, c'est 0,0001% de chance. Même si j'imagine que ça ne va pas arrêter grand monde, hein, faut être clair. Ils sont en train d'essayer de mettre un peu, comment dirais-je, la pression sur les arnaqueurs de tous bords, vu que bah, y en a partout maintenant, hein, et ça va pas s'arrêter de sitôt. Enfin, en tout cas, ça ne s'arrêtera pas tant que les gens ne mettront pas des barrières. Donc, c'est un premier pas. Je pense que c'est le genre de chose qui sera suivi très très rapidement par même un Google, parce que ça ne mange pas de pain, j'ai envie de dire. Et c'est une bonne nouvelle. On verra comment c'est vraiment imposé aux éditeurs, parce que pour l'instant, je ne sais pas si ça va être imposé de manière un peu violente ou pas. C'est une news qui vient de tomber, hein. Donc, nous, on enregistre jeudi soir. Moi, je viens de lire quelques news à ce sujet. On verra sur la longueur ce que ça donne.
Voilà, et puis on va passer du côté de la culture avec le retour des messages à caractère informatif.
Yes.
20 ans après, donc Nicolas et Bruno qui nous avaient donc habitués à des remixes, on va dire, de films d'entreprise assez rigolos. J'ai encore les DVD chez moi d'ailleurs, je crois. Donc ils reviennent sur Canal, et pour fêter ça, bah ils ont mis en ligne, c'est surtout pour ça que je voulais vous en parler en fait, ils ont mis en ligne pas tous les anciens épisodes, parce que je crois qu'il y en a plus de 300, mais il y a en tout cas une centaine d'épisodes de la première et deuxième saison sur Canal+ qui sont en ligne sur leur channel YouTube, enfin de manière complètement officielle et pas ripée de façon toute pourrie à partir d'une VHS. Donc c'est cool, vous allez pouvoir perdre plein de temps au taf aujourd'hui, déjà que c'est vendredi, vous aviez pas envie de bosser. Là, il y a une centaine de messages à caractère informatif à regarder. Et puis pour ceux que ça intéresse, donc ils reviennent sur Canal, c'est le vendredi dans une émission qui s'appelle Canal Bis à 20h40 en clair, et tous les mois à partir du 21 décembre, donc ça a commencé hier, à 22h15 dans Crac Crac de notre cher monsieur Poulpe sur Canal Plus décalé. Donc voilà.
Nice.
Les messages à caractère informatif sont de retour. On va rester dans la comédie avec Wellington Paranormal. Taika Waititi, on vous le présente plus, hein. C'est monsieur qui a fait Thor Ragnarok. Est-ce que tu l'as vu enfin ou toujours pas?
Chute. Chute.
Scandale.
Tu me fais du mal. J'ai des potes qui ont été le voir, mais genre la semaine dernière, dans des salles avec 20 pélos pour le prix d'un film normal, tu vois. Je refuse de faire ça, ok? Je ne cautionnerai pas les salles de daube à 15 balles. Voilà, c'est tout.
Tu le verras donc en Blu-ray, entre guillemets. Je fais les guillemets.
Mais bien sûr. Mais bien, je ne vois pas de quoi tu parles. Tu m'insultes.
Bref, je voulais reparler de Taika Waititi parce que, on vous avait déjà parlé de What We Knew in the Shadows, son film qui était une espèce de reportage, pseudo-reportage sur trois vampires qui vivent reclus et qui se font chier. Il y a un spin-off qui était en chantier sur ce film, qui devait être à la base un film et qui va maintenant devenir une série de télé. Donc, c'est une série télé qui va impliquer les flics qu'on voyait dans le film What We Do in the Shadows, qui, pour résumer très rapidement, sont des flics qui sont pas très très fut-fut, on va pourrait dire. La série s'appellera Wellington Paranormal et donc comme son nom l'indique, bah ils enquêteront sur tout ce qui touche au paranormal. Ce sera un peu les X-Files new-zélandais, complètement barré, complètement à côté de la plaque. Normalement, ça devrait arriver milieu de l'année 2018 sur une télévision néo-zélandaise, TVNZ2, et donc on espère que ce sera exporté. C'est 6 épisodes de 30 minutes, et voilà, bah on attend ça avec impatience. Moi, je suis devenu assez fan du monsieur, donc tout ce qui touche de près ou de loin m'intéresse. Wellington Paranormal, et toi, tu voulais parler de Noclip.
Donc Noclip, c'est le truc, on en avait un petit peu parlé sur Geekzone, parce que j'avais présenté les reportages qu'ils avaient fait sur Doom, et j'avais juste envie d'en reparler, parce qu'ils viennent de sortir un super reportage sur Horizon Zero Dawn, et le making-of de ce jeu PlayStation 4, qui est assez extraordinaire, en tout cas graphiquement, même après si les avis vont diverger sur le gameplay. Moi, j'adore le combat contre les robots, il est trop vraiment super bien fait.
Ouais, j'avais trouvé super joli, j'y ai pas joué encore, mais c'est vraiment un des jeux qui me fait envie.
Voilà.
Je vais regretter de pas avoir de PS4.
Et donc, très honnêtement, ces mecs sont à suivre. C'est une chaîne YouTube, ils sont sponsorisés par Patreon, vous connaissez ça. Ils en sont à 22 245 $ par mois. Donc, bravo à eux, mais en même temps, ils payent de leur personne, ils achètent du matos, ils vont sur place, ils vont interviewer les mecs, ils font un montage de ma boule. C'est vraiment, vraiment du boulot de qualité et du coup, là, rien que pour le reportage d'une heure qui vient de sortir sur Horizon Zero Dawn, ça vaut le coup d'œil. Quand vous attendez que vous n'êtes pas patron, vous allez l'avoir gratos de toute façon sur YouTube à un moment ou à un autre. Donc voilà, c'est plutôt cool. Et je voulais juste en profiter puisque là, ça va être les fêtes de Noël, vous allez être coincé chez mamie. Bah,
amis, pour vous occuper, ouais.
Voilà, avec ça, vous pourrez toujours dire que vous faites des recherches.
On va passer du côté de la tech avec un complément à ton papier qui est sorti hier sur le Battery Gate.
Voilà. Bon, un complément, c'est juste non pour rappeler que vous allez lire beaucoup de conneries à ce sujet. Je viens de voir passer un truc à l'instant grâce à un ami. Je crois que ce titre est pour l'instant le jackpot du bullshit. Business Insider, donc, qui est quand même pas le truc le plus débile, hein, qui nous parle directement de conspiracy theory. Mais dans le titre, hein, tu vois, les mecs ont fait genre, vas-y, on va faire du clic, Robert, n'hésite pas. Donc, je rappelle dans deux mots ce que c'est qu'on vient de découvrir et Apple est obligé de confirmer que, effectivement, quand les iPhones vieillissent, bah, les batteries lithium-ion vieillissent aussi. C'est pareil chez tout le monde, hein, c'est juste des produits qui sont amenés à vieillir quand on s'en sert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comme on le fait avec un smartphone. Au bout d'un moment, cette batterie perd de sa charge, elle n'est plus capable d'alimenter un processeur de manière correcte, et pour éviter que votre téléphone s'éteigne sous vos petits doigts pendant que vous balancez votre dernier Instagram de ouf, et ben Apple fait en sorte de baisser la cadence du processeur pour qu'il puisse pas pomper trop d'énergie et faire une petite surprise à la batterie qui du coup ne peut pas envoyer suffisamment de courant pour tenir la charge.
Ce qui est plutôt malin.
Le problème et la grosse connerie d'Apple dans l'histoire, c'est qu'ils ont fait ça sans prévenir personne, qu'ils ne préviennent pas qu'ils le font et donc que votre processeur tourne à une cadence inférieure à ce qu'il est censé tourner et la cadence qui était la sienne quand vous avez acheté le téléphone et que vous le trouviez extraordinaire et que du coup, bah, c'est aussi ce qui prouve que tous les gens qui disent « mais mon téléphone, il rame avec iOS 11, bidule, machin », n'avaient pas forcément tort. Mais en problème, c'est que ça mélange plein de trucs en même temps. Il y avait des problématiques, par exemple, les mecs qui viennent d'upgrader, quand ils changeaient le file system, bah, le file system se réindexait en même temps, donc ça travaillait beaucoup en tâche de fond, mais c'était pas du tout lié au fait que votre processeur ramait. Donc il y a plein de trucs qui peuvent rentrer en ligne de compte dans ce phénomène hyper subjectif, hein, cette impression très subjective d'avoir son téléphone qui rame, je fais mes air guillemets trademark, hein. Du coup, c'est un truc qui est hyper compliqué à mettre en lumière. Mais il y a des mecs, donc le gars de chez Geekbench, qui a un logiciel qui permet de d'étalonner, de faire des tests sur les téléphones, entre autres, hein, parce que ça existe aussi sur Mac, qui a prouvé que effectivement, plus la batterie était vieille, plus le téléphone semblait avoir des performances qui baissent. Donc, grosso modo, c'est prouvé. Apple a expliqué pourquoi. Maintenant, on sait tous où on en est. Le problème, c'est qu'il va falloir agir. C'est ce que j'explique dans mon article. Il y a plusieurs pistes à suivre. Mais la première chose à faire pour Apple, c'est peut-être de prévenir les gens, déjà, quand c'est le cas.
Communiquer mieux, ouais.
Bah, et puis même avoir une alerte dans le téléphone qui dit « Attention, ta batterie, c'est un peu de la merde. Maintenant, je vais commencer à ralentir. » Il y a une alerte qui est vraiment indiquée dans le truc batterie des options de votre iPhone qui vous dit « Voilà, votre batterie est naze, il va falloir la changer. » Mais ce truc-là se déclenche que vraiment quand la batterie est complètement naze.
Ouais.
Donc, bah, en fait, il sert à rien. Je crois que personne n'a jamais vu ce truc-là vraiment, à part avoir une batterie complètement flinguée ou garder son téléphone pendant 1000 ans. Donc, bah, il y a un entre-deux qu'il faudrait mettre en place, puisque même les gens ne savent pas que, bon, t'es pas obligé d'acheter un iPhone 12 pour garder une expérience d'utilisation correcte. On peut tout à fait aller faire changer sa batterie. Voilà, c'est de la communication surtout.
Voilà. Et puis, une bonne nouvelle pour ceux qui pensaient donc que leur téléphone était mort. Il y a peut-être encore un espoir moins cher que de racheter un neuf, même si, on sait que beaucoup d'entre vous s'en servent comme excuse, hein. On pointera personne du doigt.
Je vois pas du tout de quoi tu parles.
Non, mais si, ça rame quand même encore un petit peu.
Il y a des nouveaux trucs. Moi, c'est pour l'appareil photo. J'en ai, voilà, c'est mon point and click. Oh là là, me fait pas chier. En revanche, je précise qu'il y a aussi une astuce qui n'a peut-être rien à voir avec la batterie, qui consiste à effacer tous les paramètres, je l'explique dans l'article. Mm-hmm. Allez voir, parce que c'est, si vous êtes pas sûr que c'est votre batterie, là, le coupable, c'est peut-être un settings qui déconne. Allez faire ça, ça coûte pas cher, ça mange pas de pain. Après, vous reparamétrez votre téléphone vite fait. Et normalement, chez plein de gens, bah, ça change quand même pas mal de choses. Donc, par contre, là, j'ai pas d'infos sur le pourquoi du comment.
Et on va finir avec Magic Leap de la réalité augmentée.
Oui, alors, mais tu connais pas cette boîte. Est-ce que tu connais cette boîte?
Non, je connais pas.
Tu connais pas une boîte qui a donc levé pratiquement 2 milliards de dollars de thunes sans rien sortir?
Il y en a tellement aujourd'hui.
On parlait de Star Citizen tout à l'heure. Star Citizen, c'est des rigolos à côté. Mm-hmm. Les mecs, ils en sont à 1,89 milliard de dollars. Moi, je dis respect total.
Et ils font quoi, du coup?
Alors, ils font de la réalité augmentée extraordinaire. Alors, ils ont vendu un truc à leurs investisseurs qui apparemment est extraordinaire. Hein, parce que vu la thune qu'ils ont mis, je veux dire, il y a même des gens comme Google dans l'histoire. Hein. Mm-hmm. Le but du jeu, c'est vraiment de mettre des personnages ultra crédibles et qui réagissent à l'environnement dans votre champ de vision. Pour l'instant, on ne savait pas du tout exactement ce qu'ils faisaient. C'est déjà maintenant, on sait au moins que c'est de l'AR et que c'est pas une prise neuronale dans la nuque pour dans 50 ans. mais en revanche, bah, ce qui a été présenté dans le magazine Rolling Stone, en plus dans le magazine Rolling Stone, tu vois, pas dans un truc de super tech, donc bon, c'est un choix qui n'est pas anodin. Bah, on va dire que dans le meilleur des cas, il y a de quoi quand même rester un petit peu suspicieux. Déjà parce que tous les visuels, c'est du photoshopé à mort. Donc, ils présentent un produit qui est avec une paire de lunettes ultra cyberpunk, toute ronde. un petit pack dans le dos qui est une sorte de bécane qui a la puissance d'un bon MacBook Pro, a priori.
Putain.
Donc, qui vient bah, que vous gardez sur vous, donc c'est hyper pratique. Et les lunettes vont venir en deux tailles, ce qu'ont évité de faire tous les autres mecs qui font de la VR parce que c'est hyper chiant à gérer niveau stock et compagnie. Mais bon, là, apparemment, vu la forme du truc, ils n'ont pas le choix. Et avec tout ça, vous êtes censé pouvoir vous balader dans votre appartement et voir des Pokémon popper, des trucs. Hein, bah, j'exagère, il y a des applications hyper intéressantes dans leur histoire. On peut imaginer dans l'article, ils parlent d'une assistante virtuelle bah, qui du coup prend corps, tu vois, Siri, mm-hmm. Ça serait une gonzesse qui arrive dans ton appart et qui fait « je n'ai pas compris ce que tu veux dire ». Donc, ça peut être marrant. Mais tout ça pour dire qu'on n'a pas de précision sur exactement ce qu'ils vont faire. On sait que ça sort en 2018, en tout cas, c'est ce qu'ils veulent faire. On n'a pas de date plus précise que 2018, donc déjà, ça promet. Et puis, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir effectivement ce qu'ils vont réussir à fourguer, puisque c'est toujours la même problématique que la poule et de l'œuf qu'on a sur la VR. C'est-à-dire, est-ce que les éditeurs sont déjà au courant que ça existe? Est-ce qu'ils vont vraiment essayer de faire des jeux? Est-ce qu'il y a un système de sponsoring pour que ces mecs puissent avoir des budgets? Parce que s'ils sortent la thune de leur poche, je suis désolé, il n'y a pas de parc installé, on sait comment ça finit. Hein.
Mmh.
Donc, ça va être un peu compliqué. Je suis pas complètement vendu au truc. En revanche, si ça marche, tout le monde dit que c'est génial, que c'est magique, que ça fait de la réalité transformée. Je connais des copains qui sont déjà en train de rêver à des applications un petit peu trop avancées pour moi, tu vois. Parce que j'ai un petit côté très concret quand même. Donc, bon, on attend de voir. En tout cas, si vous voulez aller voir le papier consacré à Magic Leap, ça se passe sur le site de Rolling Stone. Je vous mettrai le lien dans la news associée à ce podcast. Et bah, vous ferez votre première idée à la lecture de ce truc. Il a été déjà décortiqué dans plein d'autres sites tech. Et j'ai envie de dire que là, je suis gentil. Il y en a qui sont beaucoup, beaucoup plus dubitatifs que moi.
C'est étonnant, d'habitude, c'est plutôt toi qui es le gros dubitatif.
Pas du tout, c'est un gros mot chez moi, je ne suis jamais dubitatif.
Pas de ronde cette semaine hein.
Non, tu vois, je voulais faire un mix avec la news Apple et son côté batterie, parce qu'évidemment, vite fait, vous allez voir, plein d'articles qui vont agiter le drapeau obsolescence programmée sur lequel j'ai dit plein de mal déjà dans un podcast précédent. Ce n'est pas de l'obsolescence programmée, c'est une connerie. Mais en revanche, la façon dont c'est fait et en tout cas l'absence de communication font qu'il y a des gens qui sont effectivement en train de titrer la théorie du complot. Comme je le disais tout à l'heure. Donc voilà, c'est pas bon, j'ai pas de rente à faire en plus de ça parce que déjà je suis beaucoup trop fatigué pour être énervé aujourd'hui.
Et puis c'est l'esprit de Noël, pas de rente.
Mais ouais, voilà. Et puis bah, j'espère que vous avez un nouvel iPhone sous le sapin. Hein.
Bon, on se retrouve en ce qui nous concerne donc la semaine prochaine entre les fêtes. On espère qu'on n'aura pas trop à cuver. On vous souhaite de bons un bon réveillon de Noël et puis on vous retrouve la semaine prochaine, vendredi 9h, pour un autre épisode de Torréfaction. Bon réveillon, Caf. Hein.
Mais toi aussi, profite bien.
Oui. Ciao.
Ciao.
Un podcast signé Faskil. Faskil.com.
Des actus, des dossiers, des tutos, des podcasts, Geekzone, c'est le site de la culture geek sous toutes ses formes. Et aussi une communauté en or. Retrouvez-nous sur geekzone.fr et soutenez-nous via Patreon. Geekzone.fr, par des geeks, pour des geeks.